Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie de Brighton Breitenbach ? Poète sud-africain, né au Cap un 16 septembre 1939, Brighton Breitenbach. Vous écrivez aussi bien en afrikaans qu'en anglais, donc.
Oui.
Pas de déchirement pour vous en ce qui concerne la langue maternelle et celle du colonisateur, comme on dit si souvent.
Non, sauf que je... Même si pour moi, si j'estime que les poèmes réécrits dans une autre langue, en anglais en l'occurrence, sont... pour moi aussi des originaux. Je ne pense pas que je pourrais jamais mettre à écrire, au moins pas la première version, le premier jet dans une autre langue que la langue maternelle. Je crois qu'il y a un rapport à la langue maternelle qui n'est pas de l'ordre du savoir, peut-être pas la connaissance la plus étendue, on le connaît peut-être pas forcément le mieux, et peut-être aussi avec certaines restrictions, mais... Ça résonne autrement, ça se réfère à autre chose. Je crois que c'est pré-sens, pré-linguistique presque. La sonorité, même si ça porte un certain sens, bien sûr, puisqu'on s'en sert comme moyen de communication, je pense que ça enclenche tout un tas d'autres procédés qu'on ne peut pas retrouver de la même manière dans une autre langue. L'anglais se prête bien à jouer, à faire des calembours, à inventer. C'est aussi une langue bâtarde, peut-être même plus que l'afrikaans. Le français est un peu plus difficile, encore qu'il y a bien sûr une belle tradition de poésie qui est très expérimentale. On peut le tordre un petit peu comme on veut, on peut en faire autre chose. Il y a du chanteur en français, bien sûr. Et surtout, pour moi, le français, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a des idées que je n'oserais pas peut-être même vouloir exprimer si ce n'est pas en français, mais ça c'est un conditionnement, ça c'est autre chose. Et puis bon, il y a d'autres langues bien sûr. Mais il me semble que la langue maternelle, c'est toujours quelque chose d'assez contradictoire, parce qu'en fait la poésie est absolument universelle, bien sûr. Et la poésie vient de tellement loin, elle n'a jamais changé depuis des siècles, dans toutes les différentes langues. Et j'ai parfois l'impression qu'on peut saisir l'essentiel, même si on ne comprend pas la langue. Par exemple, je me rappelle d'avoir écouté des poètes en langue chinoise lire leurs poèmes, ou en langue arabe lire leurs poèmes. Je pense particulièrement à quelqu'un Mahmoud Darwish. Quand je l'ai entendu pour la première fois lire ses poèmes, je ne connaissais pas, je ne connais toujours pas l'arabe, bien sûr. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui est là, qui est de l'ordre de la poésie. Il y a cette universalité et puis il y a cette spécificité, c'est toujours une voix isolée, c'est toujours une seule voix qui porte quelque chose, qui est liée à sa langue maternelle, qui est liée peut-être à un monde tout à fait particulier. Bon, on n'est pas à une contradiction près.
Dans ce livre-là, La femme dans le soleil, aux éditions Bruno Doucet, Brighton Breitenbach, il y a une belle préface de votre traducteur depuis près de 40 ans, Georges-Marie Laurie, et qui rappelle votre penchant migrateur, beaucoup d'oiseaux qui parcourent vos poèmes, et qui a cette phrase sur cette langue-là, l'afrikaans, donc la langue que vous réservez à vos poèmes. Il en parle comme d'un néerlandais des tropiques, créolisé de portugais, agrémenté de malais et pimenté par les langues bantoues.
Mmh, c'est tout à fait ça.
Ça fait un sacré sabir quand
oui,
même.
Oui, ça fait tout un mélange. Oui. Et d'ailleurs, je suppose que ça tient du miracle que quelque part de ce de pot pourri, il en est sorti quelque chose qui est quand même assez homogénéisé. Même le néerlandais dont il est question n'était pas unifié à l'époque. En fait, c'était très fortement, l'afrikaans qui est devenu l'afrikaans à ses origines était très fortement porté par des dialectes néerlandais. Bon, c'était un comptoir, la compagnie des Indes, et la compagnie employait des gens qui venaient des différentes parties de l'Hollande, mais au-delà de l'Hollande aussi. On a porté avec soi, bien sûr, son dialecte. Si j'ai bien compris, le néerlandais unifié, disons codifié, n'existait pas encore. C'était encore tout un tas de qui se ressemblaient beaucoup, bien sûr. Il inclut la langue parlée par les matelots, par les marins. On a beaucoup de termes, par exemple, en afrikaans, qui relèvent directement du langage marin ou marine. On n'a pas un mot, par exemple, pour cuisine normale. En irlandais moderne, kuurke serait la cuisine. En afrikaans, on utilise uniquement le mot kombuis, qui d'ailleurs se retrouve en France aussi, kombuis, l'endroit à bord où on fait la cuisine. Enfin bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais c'est une langue qui, pendant très longtemps, bien sûr, était uniquement orale. À l'origine, on parlait beaucoup, quand on repérait la langue, on l'appelait le néerlandais de la cuisine. C'est-à-dire le néerlandais tel qu'il était parlé par les esclaves et par les gens qui travaillaient pour les maîtres de la compagnie, mais qui n'étaient pas d'origine européenne et néerlandaise. Pour eux, c'était une langue qu'ils ont appris pour pouvoir se communiquer entre eux, parce qu'ils étaient de différentes origines. L'Extrême-Orient, de Madagascar, Angola, bon, d'autres, et puis les gens du pays même qui ont été dispersés. Et surtout aussi, bien sûr, il y a des gens qui travaillent pour la compagnie de tous bords. Ils ont fait un recensement au Cap, quelque chose comme 20 ans après le premier arrivé, des Blancs, des Européens, et paraît-il qu'il y avait quelque chose comme 19 différentes nationalités, déjà. Des gens qui venaient un peu partout, de Prusse, de Russie, d'Irlande, etc., etc. Donc, tous ces mélanges-là, ça fait... Le néerlandais était la langue officielle. Et je suppose que pendant assez longtemps, les Blancs ou les Blanchâtres pensaient parler néerlandais.
Ils ne devaient même pas savoir... Ils parlaient petit nègre, en fait.
Voilà, ils ne devaient même pas savoir qu'en fait, la langue était devenue autre. Pendant un siècle ou un peu plus, on a essayé de maintenir le néerlandais comme langue officielle, parce que, par exemple, on ne croyait pas permis de parler à Dieu, sauf dans une langue qui est quand même un peu plus élevée. Premier livre publié en afrikaans, c'est vers 1850, par là, quelque part, et c'est publié en caractère arabe, imprimé en turquie, pour être utilisé dans les mosquées au Cap, par la population musulmane. Alors, vous voyez, c'est quand même, les racines sont quand même passablement différentes de ce qu'on met toujours en avant et ce qu'on a malheureusement pendant trop longtemps considéré comme étant le profil de cette langue, parce que c'était accaparé, bien sûr, pour marquer ses différences par rapport aux autres. C'était devenu un outil d'exclusion, d'oppression de l'autre. Par exemple, déjà à ce moment-là, on oublie que la majorité de ceux qui le parlaient n'étaient pas d'origine européenne. Donc, maintenant, les choses se remettent un peu en place. Mais on est devant d'autres problèmes. On est en face, et malheureusement, des gens comme moi, beaucoup de gens comme moi y ont participé, à l'avènement d'un gouvernement qui s'est avéré être un gouvernement stalinien, stupide à mon sens, dans le sens où on essaie maintenant d'unifier, de donner un seul visage à toute cette diversité, et de faire que tout le monde ne parle qu'une seule langue, en l'occurrence l'anglais, qui, pour le nombre de personnes, disons, d'origine, ou pour langue maternelle, ne vient qu'en cinquième place dans le pays même. C'est-à-dire que presque tout le monde le parle comme deuxième langue ou troisième langue, avec les restrictions que ça importe, avec tous les clichés des phrases bateaux, ce qui rend peu profonde la pensée, peu profonde l'expression, au lieu de laisser vivre, laisser exploser ces magnifiques feux d'artifice de langue qui se trouvent sur place, le Zulu, le Xhosa, le Sotho, les langues indiennes, l'afrikaans, etc., etc. Donc, on est encore en pleine mutation et je ne sais pas si on va gagner la partie, c'est pas sûr. L'afrikaans commence à avoir beaucoup de mal à être accepté au niveau universitaire, par exemple. Parce que ça, vous savez, quand on bâcle une libération, quand on bâcle une révolution, on est toujours très content que l'ancien ennemi est toujours là, on peut toujours le charger de tous les maux possibles. Donc on peut toujours faire revivre des sentiments qui ne sont pas très profonds, mais très répandus, contre l'afrikaans, par exemple, ce qui se passe régulièrement. L'afrikaans, qui était porté à un niveau tout à fait comparable à n'importe quelle autre langue utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire pour les avocats, pour les médecins, pour les ingénieurs, pour tout le monde. Maintenant, on commence
pour
à perdre
poètes.
Ça. On commence, oui, bah, les poètes, ça va. On tient le coup. Parce que la poésie, de toute façon, puisque on est des minoritaires parmi les minoritaires, donc ça ne change pas. Mais il y a quand même un sentiment un petit peu de mélancolie teintée d'amertume de travailler dans une langue qui serait probablement éteinte d'ici, je sais pas moi, 20 ans, peut-être 20 ans, 30 ans.
Ce qui fait de vous Brighton Breitenbach, un drôle d'Africain blanc, un exilé au cœur un peu
Ben oui,
mélancolique.
ben oui, ben oui, mais voilà. On n'est pas le premier, on ne serait pas le dernier. Le monde est malheureusement peuplé par beaucoup plus de ceux-là, des gens qui ont largué les amarres et la vie est trop courte, ou peut-être trop longue. On ne devait pas vivre aussi longtemps pour voir que les échecs sont plus nombreux que les réussites. Ça fait un peu mal. La première chose que Boris Pahor m'a dit l'autre jour quand je l'ai rencontré, il a 102 ans. Il va avoir 102 ans. Et j'étais tellement heureux de faire sa connaissance. C'est quand même quelqu'un qui passait pas 5 ans de la mort, etc. Qui est un grand écrivain, qui est un Slovène, autre minorité, autre problème, Trieste, tout ça. Et toute sa vie était marquée par cette résistance. Il n'a jamais arrêté. Et je lui disais ça, je lui en félicitais. Il me regardait dire et pensait avoir fait tout ça pour rien. Alors ça, c'est horrible. Là, j'avais envie de pleurer et de rendre bon. Bien sûr, par la suite, c'est allé un peu vite en besogne, bien sûr. Ce n'est pas aussi terrible que ça. Mais quand il pense que les valeurs pour lesquelles il s'est battu sont bafoués, sont peut-être même plus menacés maintenant qu'ils étaient, bon, sûrement pas à l'époque des nazis, parce que c'était différent, mais les inégalités, la pauvreté, les gens qui se déplacent et qui vivent des vies de chiens quand ils arrivent de l'autre côté, ceux qui se perdent en route, c'est quand même quelque chose, ça. On a quand même quelque chose, on a quand même. Et quand on pense qu'on a à notre portée tous les exemples des horreurs, c'est-à-dire qu'on ne retient rien.
France Culture, ça rime à quoi? Sophie Nolot.
Et c'est compliqué pour vous, tout d'un coup, de voir ces textes-là en français qui disent forcément autre chose?
Qui disent autre chose, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est comment dire? Vous êtes très amoureux de votre compagne et vous avez l'habitude de le voir avec des cheveux d'une certaine couleur et habillé d'une certaine manière. Et un soir, vous allez dans une boîte de nuit et vous rencontrez cette magnifique dame blonde avec un mini-jupe, etc. Bon, il y a quelque chose qui vous dit, vous devrez peut-être pas trop lui faire la cour parce que quand même, il y a une autre personne jusqu'au moment où vous vous rendez compte que c'est peut-être la même personne qui s'est métamorphosée. Donc, je suis heureux d'avoir pu faire la connaissance de cette belle dame qui, pour le côté laid, c'est moi qui les ai apportés pour. Ces traits, s'il y a des traits qui sont agréables, c'est Georges.
En français.
En français.
Et cette tourterelle vermeille, celle qui est en quatrième de couverture, Brighton Breitenbach, celle qui serait dans ce poème d'amour qui consiste à envoyer une tourterelle vermeille, car personne ne tire sur un messager rouge. Je lance, écrivez-vous donc en français dans la traduction, je lance haut dans l'air ma tourterelle vermeille. Je sais que tous les chasseurs la prendront pour le soleil. En afrikaans, elle était comment, cette tourterelle-là?
Alors, il se trouve, justement, assez curieusement, c'est peut-être la seule. Non, c'est pas tout à fait la seule, parce que j'ai d'autres là, peut-être. Mais celle-là, je l'ai en afrikaans, parce qu'il n'est pas très long. C'est un des poèmes avec lesquels Georges avait, il me semble, la plus grande difficulté, parce que jusqu'au tout dernier moment, on échangeait encore des mails avec différentes propositions pour les deux, trois dernières strophes, les deux, trois derniers vers. Je pense même qu'il a dû changer un petit peu la nature de cet oiseau, mais enfin bon. Allerliebste Exstufe Rooibosduif. Alors ça veut dire très directement un pigeon ou une colombe à gorge rouge. C'est une espèce qu'on trouve en Afrique du Sud et qui chante d'une façon très jolie. Et bien sûr, le rouge, c'est aussi bon, disons, le cœur blessé ou. Ik zie voor je een rooibos, want niemand zal de boodschap wat rooi is schieten. Ik gooi mijn rode bosduif hoog in de lucht. En ik weet alle jachters zal denken, dus is zoon. Kijk, mijn duif komt op en mijn duif gaat onder. En waar hij vliegt als ik de oceaan in bomen wordt groen. En ik kleur mijn boodschap zo bruin over je vel. Want mijn liefde reist met jou mee. Mijn liefde moet zoals een engel bij jou blijven, zoals vlekken, wit zoals een engel. Je moet van mijn liefde blijven weten, zoals van vlekken waarmee je niet kan vliegen. C'était écrit en prison, celui-là.
Et ce choix de la fréquence pour vos poèmes, Brighton Breitenbach, ce n'est pas anodin que vous décidiez de prendre l'anglais pour tout le reste, mais pour les poèmes, la langue maternelle.
Oui, encore que je ne suis pas sûr d'avoir le choix. On voit toujours peut-être des caractéristiques ou des attributs dans sa langue maternelle qui en fait sont partagés par beaucoup de langues. Mais l'afrikaans étant une langue créole est très concret, très précis pour certaines choses, très mélodieux pour d'autres. Peut-être on peut plus facilement écrire des choses douces, peut-être des poèmes d'amour en afrikaans que dans d'autres langues, il me semble.
Mais c'est assez rude aussi. Souvent, votre vocabulaire est assez rude. Il y a des images, en tout cas en français, qui viennent percuter les mots d'amour avec cette question-là aussi.
Oui,
comment dire l'érotisme en poésie être nié, ni cru, ni comment inventer autre chose pour dire l'amour.
C'est vrai, tout à fait vrai. Mais on a l'impression, quand on le fait en afrikaans, qu'on... pas tout à fait, parce qu'il y a quand même toute une tradition. Il y a quand même beaucoup de maîtres, de maîtresses en afrikaans. Des très grands poètes qui m'ont précédé, donc on n'est pas seul. Mais pour vous dire que quand on écrit en afrikaans, malgré donc ces grands exemples, ces grands maîtres, on a quand même l'impression d'être un peu plus innocent.
Et plus vaste?
Peut-être plus vaste aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'on écrit dans une langue qui est donc à la confluence de beaucoup d'expériences, de vécu, de beaucoup de... à la fois la cruauté et la résistance, c'est-à-dire l'oppression et la résistance, la beauté et la laideur, le côté officiel, la langue des flics, mais aussi la langue des combattants pour la liberté, la langue des gens du pays tout à fait simple, des travailleurs agricoles, des nomades, beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes se réfèrent à ça. Et c'est une langue qui ne peut se créer qu'en tenant compte de ce côté vaste dans lequel... nous vivons là-bas, il y a toujours les étoiles, il y a toujours les montagnes. Les mers sont, enfin les océans sont immenses. Le pays est très sec à l'intérieur. Ça entre forcément, ça entre dans la langue même. Et ces gens-là qui allaient vers l'intérieur, je parle maintenant des trekkers par exemple, les pionniers, qui n'avaient sûrement pas beaucoup de livres avec eux, qui étaient obligés de nommer ce qu'ils voyaient. C'est comme si on entrait au paradis, et que tout d'un coup, on nomme ce qu'on voit, vous vous rendez compte? C'est magnifique, magnifique.
Vous nommez beaucoup la nuit, Brighton Breitenbach, surtout dans ce livre-là, donc cette anthologie, La femme dans le soleil, c'est un choix de votre traducteur qui vous suit depuis 40 ans, c'est assez incroyable ce compagnonnage. C'est donc Georges-Marie Lory qui a choisi ce parcours-là et qui s'ouvre sur la neige dans une nuit étrangère pour se finir ensuite en une prière... dans un lit supplié. C'est tout nocturne.
C'est ces deux poèmes-là qui ouvrent et qui clôt le recueil. Et je devais peut-être dire encore, c'est vraiment Georges qui a façonné le livre, c'est lui qui a fait le choix, c'est lui qui a trouvé le titre, c'est lui qui a agencé l'architecture du livre et tout. Mais donc le premier poème a été fait à Paris, et puis la toute dernière est à Gorée, en Afrique de l'Ouest. Dans la mer, si je me rappelle bien.
Vous citez aussi beaucoup de compagnons, d'alliés substantiels, comme disait René Char. Ces poètes, il y a Jean Cocteau à propos du soleil, là encore, du soleil tout partout, même si c'est le soleil de lune chez vous, Brighton Breitenbach. Il y a aussi Mahmoud Darwish que vous avez évoqué pour le mystère de ses plus vives clartés. Ou encore Georges Brassens et sa jolie vache déguisée en fleurs.
Oui.
Il y a pas mal de pieds de l'âne aussi dans vos poèmes.
Oui. L'avantage, je crois, en poésie est encore beaucoup plus qu'en n'importe quelle autre forme d'écriture. Et je pense sincèrement pas que la poésie soit la littérature. Je crois que ça relève d'autres choses. Bien sûr, il y a le fond de commerce, si on peut l'appeler ainsi, partager des mots, des paroles. Mais Dans ce cas-là, on peut dire la poésie, c'est la politique, parce qu'on le partage aussi avec les politiciens, le maniement de mots, de concepts. Mais la poésie, étant donné que ça se rappelle ou ça se réfère à des actes d'exorcisme, à de l'incantation, à des chants, à des danses,
il y a aussi
au
Henri
silence.
Michaud dans vos poèmes.
Oui, c'est vrai, Michaud, oui, oui. Mais donc, on a l'impression véritablement, il me semble, de faire partie d'une lignée ou de faire partie d'une famille. Les gens, même disparus, sont vivants. Les poètes, Kalpa, je sais pas, quelqu'un l'a su, moi, dit beaucoup mieux, mais les poètes ne meurent pas. Quand les poètes seront morts, c'est Gilles Bécaud, non, qui chante ça. Mais les poètes ne meurent jamais parce que, enfin, bon, les poèmes meurent, bien sûr. Ils renaissent aussi. Il me semble qu'un poème n'existe que dans la mesure où ça a été pris en possession, c'est devenu autre, c'est devenu, ça a été pris par la personne qui va le lire ou qui va le recevoir. Le poème n'existe pas en tant que tel. Il peut exister quelque part, pas encore formé, pas encore terminé. C'est comme un oiseau qu'on lance dans l'air. Ça ne peut exister dans la mesure où la personne le reçoit de l'autre côté. Elle le fait sien, bien sûr. Alors, bien sûr, ça peut mourir après un certain temps, parce que les gens ne vivent pas pour toujours. Les poèmes tombent en désuétude, on les oublie, et puis tout d'un coup, ça ressurgit quelque part quand on s'attend le moins. Tout d'un coup, je suis toujours étonné quand tout d'un coup, il y a un Rumi qui sort de nulle part, quand il y a un Wang Wei qui, paf! Et bon, bah, parfois ça porte un visage, parfois non. On n'est pas sûr que c'était écrit exactement comme ça. C'était sûrement pas dans un champ de signification qu'on connaît. Ça faisait référence à des religions, des coutumes, des pratiques qu'on ne connaît plus. On ne connaît pas la langue. Et pourtant, paf, ça ne vous sert à rien. Ça vous vient comme ça, comme un petit livret de famille dans lequel on a osé aussi inscrire son nom, peut-être, quelque part, un tout petit sur les dernières pages. Mais voilà, ça fait vraiment famille.
Et parfois, Brighton-Brighton-Bach, vous osez en rire, comme ce poème-là, daté du 12 mars 1977, qui se termine avec une petite phrase en italique, avec mes excuses à Pierre de Ronsard et William Butler Yeats.
Oui.
Ça s'appelle Fracture de l'œil, et on comprend que c'est un détournement, oui. Un rien amusé.
Oui, oui, bien sûr.
De quand vous serez bien vieille.
Bien sûr, bien sûr. C'est des conversations qui continuent. Il est presque impossible d'entrer, ou servir avec une phrase et ne pas aussi avoir les échos de tout un tas d'autres. Si vous les avez lus quelque part, si ils vous ont marqué. Je ne sais pas si on peut mettre ses pieds dans les pas d'un autre. Je ne sais pas si je pourrais retracer. Là, dernièrement, je suis en train de lire pas mal de choses de Baudelaire, assez curieusement. Ce n'est pas un personnage qui me parle beaucoup.
Si ce n'est pour l'albatros et les oiseaux?
Oui, peut-être. Oui, ça, aussi sa manière d'être envers la ville et son entourage. Peut-être parce que je commence à comprendre un peu mieux ce qu'il a voulu faire avec ce qu'il écrivait. Mais pendant longtemps, j'étais beaucoup plus proche. Enfin, disons, instinctivement, je me sentais beaucoup plus attiré par Rimbaud, par exemple, comme nous tous. C'est peut-être une question d'âge aussi. Et puis aussi le côté africain. Encore que Baudelaire, assez curieusement, il y a un petit écho d'Afrique, et même d'Afrique du Sud. Et même de Grote Skuur, qui est les stanciers, j'allais dire, la domaine viticole où il y a des vignobles le plus connu à l'époque au Cap. Et Baudelaire l'a bu quand il est allé en île Maurice, et il s'est rappelé de ça. Est-ce qu'on peut retracer le chemin fait par ces gens-là? Est-ce que je peux refaire le voyage de Rimbaud en Afrique? À Saint-Malo, dernièrement, il y avait, pendant le festival, il y a Alain Borer. J'avais envie de l'aborder, et puis après, je ne l'ai pas fait, parce que j'aurais bien voulu lui parler de son livre. Je me rappelle que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué à un certain moment donné, l'histoire de Rimbaud. Mais on a quand même l'impression d'avoir un dialogue avec ces personnes-là.
Quelle est cette tombe au poète inconnu que vous célébrez à Rotterdam, Brighton-Bach?
Ah, ça, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est au courant de ça. C'était venu d'une histoire. J'étais en prison. Enfin, j'étais encore en prison à ce moment-là. Et j'avais écrit une petite histoire, disons un petit essai. Je faisais semblant que c'est un procédé utilisé parfois par Borges, comme si on est tombé sur une vieille un manuscrit qu'il a depuis très longtemps, on ne sait pas qui est-ce qu'il a écrit. Et je faisais semblant que je suis tombé sur ce manuscrit qui parlait de la tombe du poète inconnu, quelque part. Et alors, bien, je commençais à réfléchir un peu, pourquoi pas. Il y a, après tout, il y a la tombe du soldat inconnu. Il n'y a que trop de statues de généraux sur leurs chevaux un peu partout dans le monde, etc. Pourquoi pas un tombe quelque part d'un poète inconnu? Il s'est trouvé que c'était plus seulement à l'époque où on me faisait le deuxième procès, celui pour lequel j'ai failli être condamné à mort. Et donc, pour préparer le procès, mes avocats avaient droit de me visiter pour parler de tout ça. Et un des deux avocats était lui-même un ancien gibier de potence, un ancien prisonnier politique, dans son autre tendance politique, Parti libéral. Un homme d'un très grand humour, il avait un rire magnifique. Et donc un jour, je lui ai glissé ça dans sa coche, et le gardien s'en est pas rendu compte, et il est parti avec. Il a envoyé ça à mon éditeur en Hollande. Ils ont pris ça au sérieux, c'est-à-dire, bon, j'ai situé l'endroit, parce qu'à l'époque, je connaissais déjà Rotterdam pour avoir participé à différentes manifestations de cette Festival de poésie internationale de Rotterdam. Je me disais, ça serait bien, il y a une fois par an, il y a tous ces poètes qui viennent là, une centaine, de toutes parties du monde, et ce serait pas mal s'il y a un endroit qu'on peut vénérer, où on peut aller rire, on peut aussi s'amuser, on peut apporter ses poèmes, on fera une fête, on va danser, etc. Et effectivement, on l'a identifié, on l'a fait. Quand je suis sorti de prison, on m'invite à Rotterdam de nouveau, ça devait être en 84, peut-être 85, et j'y vais, et donc effectivement, on m'a demandé d'inaugurer, c'était un énorme platane qui pousse au bord d'un canal, au centre même de Rotterdam, tout proche de là où les événements de poésie ont lieu chaque année, les salles de théâtre, et donc on a accroché des petits drapeaux dans les arbres, on a fait venir un orchestre qui s'appelait le Rote Fanfare, un groupe de musiciens qui jouaient des instruments plus ou moins avant, mais d'une façon complètement fausse, mais ça s'appelait la fanfare rouge. On était là avec l'international et tout le reste. Et les poètes sont venus et on m'a demandé de faire un discours d'inauguration. Et j'ai donc officiellement inauguré l'endroit qui maintenant, j'ai été de nouveau il y a quelques mois, l'endroit est entretenu. On a même une pierre tombale sur lequel il y a une citation, c'est le tombe de poète inconnu. Et si j'ai bien compris, il y a des cérémonies maintenant chaque année autour de ça. Alors, vous voyez, c'est magnifique, non? Quand on a, pour une fois, fait quelque chose et qu'on laisse la preuve palpable quelque part.
La femme dans le soleil, de Brighton Breitenbach, traduit de l'afrikaans par Georges-Marie Lory, est aux éditions Bruno Doucet dans la collection Soleil Noir. Sarima Kwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr, pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement tant qu'il en est temps encore. Sarima Kwa, Claude Nior, Philippe Palares, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.